commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passées, présentes et parfois même futures. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre ? Oui, mais quel livre ? Avec L'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous aider à choisir et vous conseiller. Alors, bonjour déjà à tous et à toutes. Eh bien, c'est Gwen. Comme je suis tout seul, eh bien, je vais faire comme d'habitude. Je vais me faire plaisir, en espérant vous faire plaisir aussi, en parlant d'un auteur. Aujourd'hui, ça va être Patrick Ness. Alors, Patrick Ness, j'en ai déjà parlé une ou deux fois, je pense, sur deux, trois émissions différentes. Mais là, je vais faire un petit focus, puisqu'il y en a un qui est sorti en fin d'année. Mais on le garde pour la fin, parce que j'aime bien. Patrick Ness, c'est un auteur américano-anglais. Du coup, j'ai regardé pour une fois ce matin. Donc, il est né en Amérique et il vit à Londres maintenant. C'est un auteur assez récent, dans le sens où en France, on est à une série sur trois volumes, plus deux romans et une nouvelle. Donc, c'est vraiment un auteur qui n'a pas beaucoup de titres. Mais ce que j'apprécie beaucoup chez lui, en fait, c'est son côté change. Il change beaucoup dans ses romans, en fait, par rapport à ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un auteur qui va suivre un schéma prédéfini comme des Carl Yassen, par exemple, qui vont tout le temps des Carl Yassen, qui vont mettre tout le temps leurs romans dans les Everglades en Floride, par exemple, avec une moralité écologique à la fin. Là, lui, à chaque fois, il change. À chaque fois, ça part. À chaque fois, c'est autre chose. À chaque fois, c'est un autre truc. Et à chaque fois, on se marre. Et à chaque fois, on s'éclate. Et à chaque fois, on réfléchit. C'est vraiment un auteur très intelligent de ce côté-là, en plus. Alors, je vais vous parler de sa première série, quand même, parce que sa première série, en plus, je l'avais adorée. C'est Le Chaos en Marche. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse, tous ces titres sont chez Gallimard Jeunesse d'ailleurs, il faut qu'ils le gardent hein, parce que bon, moi j'adore. C'est Le Chaos en Marche, alors c'était une trilogie pseudo-fantastique, on peut dire, puisque du coup le fantastique est là, mais enfin SF fantastique du coup, mais assez différent. C'est-à-dire qu'en fait nous sommes à Prentisville, un petit village, on ne sait même pas si on est sur Terre d'ailleurs, on va découvrir très vite qu'on n'est même pas sûr d'être sur Terre. Et on va suivre Todd Yewitt. Todd Yewitt est un jeune garçon et dans ce village, en fait, on lui a dit, très jeune en fait, qu'un virus avait tué toutes les femmes et tous les enfants en bas âge. Et que du coup, ce village donc, de 280 âmes n'allait pas grandir forcément, il n'y a plus de femmes. Et à chaque fois qu'ils ont 13 ans, donc, quand tous les jeunes ont 13 ans, puisqu'il restait des enfants donc assez âgés, ils deviennent des hommes. Ils ont une espèce de cérémonie. Et Todd Yewitt est le dernier enfant de cette ville à devenir un homme. C'est-à-dire, c'est vraiment le dernier. Donc c'est vraiment encore plus important d'ailleurs pour cette ville, puisque c'est le dernier. Et ce virus, en fait, a créé aussi autre chose, puisqu'il a fait muter. Il a muté toutes les choses, et en fait, les animaux, les plantes, les êtres humains ont des pensées et entendent les pensées. Ce que le garçon va appeler le bruit, ce qu'on appelle le bruit. Et du coup, on va voir toutes les pensées des choses, des gens. Et c'est très intéressant parce que le bruit, il faut le représenter. Alors, il le représente très bien dans le livre. La présentation du livre était très intéressante de ce côté-là. C'est qu'il représente le bruit de façon plein d'écrits partout. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si on était au milieu de bruits. Donc, on a des bruits de voiture, on a des bruits qui sont en parallèle. Et c'était vachement bien représenté, toutes les pensées qui étaient mises dans ce livre. Et du coup, il y a autre chose aussi dans ce livre qui était intéressant, c'était les fautes d'orthographe. Alors, je le dis maintenant parce que voilà, au cas où ceux qui voudraient le lire vont me dire quelque chose, Gallimard laisse des fautes d'orthographe. Non. Gallimard n'a pas laissé les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe sont nées du fait que si on considère un microcosme de 280 personnes, le vocabulaire s'est appauvri. Et forcément, les gens ont vu qu'il n'y avait plus personne pour leur apprendre l'orthographe, le vocabulaire. Bah, du coup, l'explosion devient l'exposition, un truc comme ça. Et il y a plein de termes comme ça qui sont modifiés, dans le sens où ce village est resté en microcosme pendant un moment. Donc bref, Todd Hewitt est le dernier garçon, et un jour où il se bat dans la forêt avant sa cérémonie, donc on est deux jours avant la cérémonie, il est élevé par deux oncles à lui, oncle Ben et oncle Cillian, si je ne me trompe pas, il se balade avec son chien, donc Munchie, un de mes personnages préférés du roman, malheureusement c'est le chien, oui, je le trouve super drôle dans le roman en fait. Donc Munchie court partout, donc le garçon est au milieu du bruit, il entend les plantes, il entend Munchie qui court après les écureuils, qui dit cureuil, qui dit pipi. Et c'est un chien, hein. Faut pas trop lui en demander non plus. Même si on entend ses pensées, ça reste un chien. Et à un moment, il va faire une rencontre qui va tout changer. Mais clairement, puisqu'il va rencontrer un trou dans le bruit, comme il l'appelle. C'est-à-dire qu'il va voir une fille. C'est la première fois de sa vie qu'il en croise une, forcément. Et surtout, il n'entend pas ses pensées. Ce qui est encore plus choquant pour lui. C'est pour ça qu'il l'appelle le trou dans le bruit. Puisqu'elle est entourée du bruit du monde, en fait, qu'il peut entendre, mais pas elle. Donc il rentre dans son village, enfin dans sa petite ville, en essayant de cacher ses pensées, puisqu'il a appris aussi à cacher ses pensées en quelque sorte. Mais ça ne marche pas très bien, tellement il est excité par cette rencontre. Sauf que quand il arrive chez lui, ses deux oncles lui donnent un sac, un couteau, et lui disent « Fuis avec Monty », et on voit tout le village qui arrive sur lui. Mais tout le village, vraiment, les 279 autres personnes, je crois, qui arrivent avec des armes et tout ça vers la maison. Et il s'enfuit, et il va retrouver la jeune fille, et il va s'enfuir. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti dans ce monde où on découvre que la jeune fille, en fait, serait une colombe de l'espace, en fait, puisque la Terre a été abandonnée, donc on ne serait pas sur Terre. Alors, on se demande si Todd Hewitt est un humain, d'ailleurs, puisqu'on va croiser des créatures, des Spackles, qui ressemblent étrangement à des humanoïdes et qui ont l'air plus humains, finalement, que les humains qu'on va suivre. Et c'était une série qui, à l'époque, m'avait totalement traumatisé, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est génial. Enfin, l'histoire, le scénar de base est totalement génial, puisqu'on va découvrir que ce microcosme village est totalement... toute la planète a subi ce virus, mais ce virus n'a jamais tué les femmes et les enfants. Enfin, on découvre plein de choses, en fait, sur le maire, surtout le maire qui va être le personnage le plus important de la série. Aussi, hein. Et Patrick Ness nous livre à ce moment-là un truc assez important dans cette série, c'est qu'il n'aime pas ses héros. C'est pas possible. Je veux dire, Todd et Viola, donc la jeune fille qu'on va découvrir, ils s'en prennent mais plein la tête pendant 3 volumes. Mais vraiment, c'est génial dans le sens où ils se battent toujours et ils veulent vraiment changer les choses. Et puis voilà, on va découvrir plein de trucs sur le monde. Mais qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'on... On est tellement avec eux qu'on est là, on a envie de dire à Patrick Ness, à la fin du 2e volume notamment, moi je me souviens, je m'étais dit, mais il faut lui écrire un mail, il faut lui dire, mais arrête, laisse-le tranquille, laisse-le se reposer au moins 5 minutes, quoi. Et non, il leur met des coups, mais en même temps, ça les fait grandir énormément. Ça leur apprend tellement de choses sur eux-mêmes et sur le monde que du coup, on comprend l'objectif. Enfin, l'objectif, pas l'objectif de Patrick Ness, mais on comprend le truc. Mais c'est tellement dur parfois parce que ces personnages sont super attachants. Il a vraiment une psychologie du perso que je trouve super intéressante de ce côté-là. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est une série sur 3 volumes qui finit, pas bizarrement, qui finit très bien finalement. Mais toute une découverte de ce monde, et on se demande tout le temps si on est sur la Terre, un peu à la manière de la planète des singes, en fait, où le personnage arrive à la fin et découvre la Statue de la Liberté, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on est vraiment sur la Terre ou si on est ailleurs. Donc ça, c'est sa première série, et c'était juste magnifique. Et le 2e titre, c'est « Quelques minutes après minuit ». Alors ça, « Quelques minutes après minuit », c'est sur une idée de Siobhan Dodd, un auteur irlandais que j'adore particulièrement. Un jour, j'en parlerai peut-être d'elle aussi. Malheureusement, morte trop tôt, à mon goût. Enfin, au goût de tout le monde, je pense. Qui avait écrit ce scénario, en fait, il y a des années, et que Patrick Ness a récupéré et a remis au goût du jour, si je puis dire, de fort belle manière. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui, sa mère est malade d'un cancer, et il fait chaque nuit un cauchemar, et du coup, c'est un cancer incurable, a priori, donc c'est très dur pour le garçon, ce qui est normal, on peut le concevoir. Hein. Et une nuit, un monstre arbre. Voilà. Alors au début, le gamin pense que c'est un cauchemar, mais l'if, des manières percutantes, c'est le cas de le dire, pour lui montrer que ce n'est pas un cauchemar. Et il le regarde et il va lui dire, voilà, je vais te raconter 3 histoires. Et à chaque fois, je viendrai à minuit, quelques minutes après minuit, je te raconterai une histoire. Et au 4e soir, ce sera toi qui me raconteras ton histoire. Et elle a intérêt d'être bonne. Sinon, a priori, sinon tu meurs, quoi. Clairement. Donc le garçon n'y croit pas au début. Jusqu'au moment où le premier matin, il va s'apercevoir qu'il y a des branches d'if sur son lit et par terre dans sa chambre. Alors que les fenêtres sont fermées, bien sûr. Et l'if va donc commencer à raconter ses histoires. Ses histoires sont toutes plus horribles les unes que les autres. Horribles dans le sens où elles ont une moralité assez douteuse. Par exemple, je pense à ce pasteur qui avait ruiné le marché, le commerce de l'apothicaire, qui était un apothicaire grossier, amer, qui arnaquait les gens, mais qui soignait les gens quand même. Hein. Mais je veux dire, au niveau du prix, Et le pasteur avait totalement démoli son commerce en disant qu'il fallait prier et tout ça. Enfin, il était monstrueux avec lui. Jusqu'au jour où ses filles sont malades à ce pasteur, et il est prêt à vendre sa foi, en fait, clairement, pour que l'apothicaire sauve ses filles. Sauf que l'apothicaire refuse, parce que voilà, l'autre, il avait qu'à accepter avant. Et l'if arrive le soir et détruit le presbytère et tue le pasteur et les filles. Et la moralité de cette histoire, qui pourrait être totalement horrible, finalement c'est vrai que c'est assez odieux parce que l'apothicaire aurait pu les soigner aussi. L'if explique que c'est parce que, juste parce qu'il était prêt à prostituer ses croyances, en fait, sa foi qu'il avait tellement dit qu'il devait défendre, il était prêt à la trahir au moment des épreuves, en fait. Sa foi se basait sur la peur et l'égoïsme, en fait. Et jusqu'au moment où le garçon va nous raconter son histoire, puisque voilà, après ces 3 histoires, il doit raconter la sienne, et on comprend pourquoi. C'est un magnifique livre, je peux rien raconter d'autre, c'est un magnifique livre, c'est un hymne à l'amour, mère-fils, c'est beau. Ces histoires ont l'air horribles, mais on comprend pourquoi, c'est une vision sur la culpabilité, sur la maladie, sur plein de choses. C'est un magnifique roman, c'est pas du fantastique réellement, même s'il y a ce côté fantastique, c'est juste une belle histoire autour de cette relation mère-fils et surtout autour de la culpabilité, autour de la maladie. C'est une histoire assez dure par contre. C'est vrai que la fin est assez dure. Je sais, pour l'avoir relu récemment, je me suis dit à la fin, voilà, j'ai versé ma petite larme. Pourtant, je l'ai déjà lu. Mais voilà, je suis obligé parce que voilà, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau qu'on est forcé d'être entraîné dedans et de dire waouh, c'est magnifique. Et les moralités, on les comprend justement grâce à ça. Et on comprend pourquoi le garçon doit raconter son histoire et pourquoi Leaf raconte ces histoires-là. C'est un des plus beaux romans sur cette chose qui m'était donnée de lire, malgré ce côté fantastique qui pourrait rebuter. Là, pour le coup, non. Et voilà, c'est un des très très beaux romans de Patrick Ness. Et il va me rester le dernier. Et plus encore, et oui, bah c'est le nom du livre, hein, et plus encore, hein, pour le coup. Et plus encore, Patrick Ness. Alors, ça commence sur une page et demie par la mort d'un garçon. Voilà, ça commence par sa noyade, le froid le tue. Il a une omoplate brisée par un rocher, et au final, c'est un éclat de rocher qui lui transperce le crâne et qui lui casse la troisième et quatrième vertèbre. Tout ça, c'est dit dans une page et demie. Hein. Je précise quand même que c'est vraiment raconté au début du roman, ça commence comme ça. Et le garçon se réveille. Bah oui. Il se réveille dans son ancienne maison en Angleterre, puisqu'en fait, il était en Amérique, a priori. On va découvrir ça au fur et à mesure du roman. Et il se réveille dans son ancienne maison anglaise, où il a vécu un traumatisme étant jeune avec son jeune frère qui est handicapé mental, a priori. On va découvrir tout ça aussi, parce qu'en fait, à chaque fois que le garçon s'endort, finalement, dans ce monde-là, si je puis dire, il revit le passé. Mais il revit le passé de façon, pas comme un rêve, pas comme une histoire qu'il revivrait comme ça. C'est-à-dire qu'il le revit de façon, il y est, quoi. Il y est dans le passé. Donc, il se réveille dans cette ancienne maison, en fait, avec des espèces de bandes sur lui, dans un cercueil. Alors, il commence à se croire en enfer, il a bien raison, puisque le monde autour de lui a l'air mort, tout est abandonné, tout est plein de poussière, les voitures sont posées dans des coins, enfin, voilà. Le monde est mort. Le monde est mort, clairement, et il se dit que c'est son enfer, c'est sa faute, puisque le traumatisme qu'on va découvrir au fur et à mesure, il se sent coupable, et ses parents le faisaient ressentir coupable, même s'ils le voulaient pas. Ses parents sont a priori des gens bien, mais... Voilà, il pouvait pas s'empêcher que c'était de sa faute si son petit frère était devenu comme ça. Et du coup, au moment où vraiment il commence à se croire en enfer et qu'il va mourir, pas mourir à nouveau, mais qu'il va devoir passer son temps en enfer, il va tomber sur deux autres enfants comme lui. Régine, une noire assez forte qui a l'air d'avoir un sacré caractère. Et Thomas, un jeune polonais très drôle. Enfin, a priori, il se dit polonais. On ne sait pas s'il est polonais d'ailleurs, mais très drôle. Lui, il est bourré d'humour, il est super sympa. Qui lui explique qu'ils ne sont pas en enfer, mais qu'il y a le conducteur qui va l'arrêter. Le conducteur, c'est une espèce de personnage noir, une espèce de... qui a une camionnette noire et qui arrive pour les arrêter. Il va s'enfuir avec eux. Et là, il va rentrer dans le monde. Et là, on bascule dans un autre truc. Alors là, on bascule sur un truc complètement différent. C'est-à-dire qu'au départ, on était sur ce côté enfer, la mort. Donc, on comprend pourquoi il se suicide suite à une histoire de relation homosexuelle avec quelqu'un. Ça s'est mal passé au lycée après, quand ça s'est su, forcément. Malheureusement, plutôt, on devrait dire, plutôt que forcément. Malheureusement, ça s'est mal passé. Donc, du coup, en fait, le gamin est lâché. C'est pour ça qu'il se suicide finalement. On va le découvrir ça dans l'histoire. Donc, ça, c'est pas un spoil en soi. Mais dans cet univers-là, voilà, on découvre que. Alors, ça bascule dans une espèce de Matrix. Voilà, c'est une espèce de Matrix, en fait, où on changerait de monde. Où il y a un monde virtuel et un monde réel. Sauf que, voilà, ce qui est bien dans ce roman, c'est qu'on sait pas. On sait pas. Alors, je sais, ça a frustré pas mal de gens, d'après les commentaires que j'ai vus sur Internet et j'en ai parlé avec d'autres. Ça les a frustrés à mort. Mais moi j'adore, parce que jusqu'au bout, on ne saura pas si c'est réellement son monde réel ou son monde virtuel, puisque le gamin n'y croit pas en fait à ce monde réel et à ce monde virtuel, clairement. Et à chaque fois, en fait, le monde réel lui donne raison en quelque sorte, puisqu'à chaque fois, le monde réel, à un moment, il se croit dans un film, il dit, là, ce serait là où le grand méchant réapparaîtrait pour nous arrêter. Et là, le grand méchant apparaît. Le conducteur, donc, à nouveau apparaît. C'est là où machin, c'est là où truc. Et à chaque fois, ça marche, en fait. Enfin, à chaque fois, ça marche, c'était dans un film. Dans une série, dans un monde virtuel en fait. Donc où est le monde virtuel, où est le monde réel? Est-ce que les cercueils où ils sont réveillés sont le monde réel? Parce qu'il va se souvenir quand même de 2-3 trucs, il y a 2-3 trucs qu'il va se souvenir quand même. Et il y a tout dedans, il y a cette psychologie, puisqu'on découvre pourquoi Régine et Thomas sont avec lui dans ce monde, et pourquoi en fait ce monde est comme ça en fait, et qu'est-ce que ce serait le monde virtuel. Et on découvre tout ça, mais en même temps, il nous distille des indices, voilà, il va nous distiller des indices du monde virtuel, monde réel, et en même temps, il nous dit pas tout, quoi. Il nous dit pas tout et on a envie de savoir et faut attendre la fin parce que sinon c'est pas drôle. Mais du coup voilà, c'est un super roman, mais c'est vraiment voilà, encore une fois, ça part sur un truc. Enfin voilà, ça pourrait être un truc très matrixien, si je puis dire. C'est un néologisme totalement horrible que je viens de faire. Très matrixien dans le sens où on part sur un monde virtuel, mais en même temps pas vraiment. Et voilà, c'est Patrick Ness, quand il écrit, il fait quelque chose. Et ben, il fait quelque chose de différent, encore une fois. Encore une fois, il nous étonne avec un truc complètement différent. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que, voilà, c'est tellement fort, c'est tellement beau. Il y a toute une partie sur la relation homosexuelle. Il y a toute une partie sur Thomas aussi. On va découvrir pourquoi il est là. Enfin, il y a toute une... Voilà, tous ces personnages sont très forts. Et en même temps, très faibles d'un côté. Tous ces personnages-là, voilà, ont juste envie de survivre, que ce soit des Todd, que ce soit Connor ou Mallet dans quelques minutes après-midi. C'est juste des êtres humains. Et c'est peut-être ça, sa force. Finalement, ces personnages sont que des êtres humains. Et finalement, à aucun moment, il n'en fait des héros. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il mange un peu beaucoup, ces héros. Mais c'est parce que ce n'est pas des héros, peut-être. C'est juste des êtres humains. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils chez lui. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est gris. Alors, parfois, c'est gris. Parfois, c'est peut-être un peu plus blanc. Mais voilà, c'est Patrick Ness, quoi. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément de ce côté-là. Et je vois que mon temps file. Donc, sur ça, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté. N'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque et s'achètent en librairie. Bonne journée à tous. Au revoir.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.